Bonjour à tous, frères et sœurs. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 8. Et Jésus, dans les Évangiles, dit « Ma parole ne change pas ». Et c'est vrai que nous pouvons constater une certaine stabilité de ceux qui s'appuient sur le rocher des siècles, sur Jésus-Christ, sur la parole qui ne change pas. Et cela procure dans nos vies une réelle stabilité. Beaucoup de personnes sont dépendantes des circonstances, de ce qu'elles vivent, etc. C'est vrai que nous connaissons tous des circonstances différentes dans nos vies, des moments plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Mais celui qui s'appuie sur la parole de Dieu garde quand même une certaine stabilité dans sa vie. Parce que cette stabilité n'est pas en lui, mais cette stabilité est dans l'objet de sa foi, dans la parole de Dieu. Elle est en Jésus-Christ, elle est en Dieu qui est l'Éternel. Je suis celui qui suis, celui qui ne change pas. Et pour nous, c'est quand même très important de garder ce message en nous. Alors le message d'aujourd'hui, c'est un message simple. Simple qui est basé seulement sur une idée. Que faisiez-vous le 25 novembre 2012 ? Vous n'en savez rien. Hein ? Ça fait... Tu respirais déjà, oui, c'est bien. Tu étais né depuis quelque temps, tu respirais, c'est bien. Une bonne chose. C'est vrai qu'actuellement, la question de respiration, c'est un problème. Mais donc, bon, vous ne vous souvenez plus, ça fait à peu, enfin pas encore tout à fait 10 ans, dans 2012, là, il y a, comme on dit, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Hein. Mais je peux vous dire que c'était un dimanche. Et donc ce dimanche, je faisais un message. Et voilà, je vais reprendre le même message, parce que j'étais un peu pris de court. Quand Samuel m'a dit que le frère Joseph était positif, hier il y avait encore de la famille à la maison et j'avais peu de temps pour préparer. Donc j'ai repris un message et je me suis dit, est-ce que ce que j'ai dit à 10 ans, je peux le dire aujourd'hui ? Ben oui, en fait, je peux le dire parce que la parole de Dieu ne change pas et que ce que je disais, ça ne venait pas de mes pensées à moi, ça venait simplement de ce que je lisais dans la parole de Dieu. Donc je peux reprendre un message d'il y a 10 ans. Plusieurs d'entre vous ici n'étaient pas là, donc c'est pas gênant. Je vais pas trop me répéter. Mais c'est un message simple, un message court qui n'est pas long et qui est basé sur une idée principale. Alors prions d'abord. Oui Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que ta parole est véritable. Et que nous voulons simplement nous référer à ta parole, Seigneur. Alors nous te prions encore pour Régine, pour Jean, pour que tu rétablisses complètement, Seigneur, que ta grâce soit sur eux, ton esprit, que ta grâce soit sur tous les absents, Seigneur, tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas pu se joindre à nous, sur notre frère Joseph, qui devait apporter la parole. Seigneur, fortifie-le aussi, ainsi que sa famille. Bénis tous ceux qui sont en souffrance en ce moment, Seigneur. Renouvelle-les par ta parole et par ton esprit, Seigneur. Amen. Alors, ce message se base sur un passage qui se trouve dans l'Épître aux Corinthiens. Donc, dans 1 Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, donc c'est à Pierre, hein, donc, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, au moment où l'apôtre écrit, bien sûr, sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Je ne vais pas faire une analyse complète de ce passage, bien sûr, mais ce qui m'avait frappé, c'était cette phrase « Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Les apôtres ont annoncé l'évangile qu'ils avaient reçu de Jésus-Christ. Et ils ont précisé certaines choses. Et c'est important que nous, aujourd'hui, au XXe siècle, nous gardions le même enseignement. Croire en vain. Est-il possible de croire en vain? Non. Si on croit au Seigneur, bien sûr, ce n'est pas en vain. Mais si on ne retient pas l'évangile tel que les apôtres nous l'ont annoncé, alors on peut croire en vain. C'est, semble-t-il, ce que nous dit l'apôtre. Imaginez croire quelque chose toute sa vie et se tromper. Dieu ne nous trompe pas. L'évangile est vrai. Mais est-ce que nous croyons vraiment ce que les apôtres ont prêché? C'est ça la question. Il est donc important de savoir ce que dit la parole de Dieu de façon précise sur le péché, sur la condamnation, sur le salut, sur la résurrection, afin de ne pas se faire un évangile à notre sauce, auquel cas nous croirions pour rien, en vain. L'apôtre Paul lui-même, qui pourtant avait reçu des révélations de Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ lui était apparu, il a fait valider en quelque sorte ce qu'il enseignait par les apôtres qui avaient connu le Seigneur. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Galates, au verset 2, au chapitre 2. Il nous dit « 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » L'apôtre Paul se remettait en question et se disait « Il faut absolument que ce que je prêche, que j'ai reçu comme une révélation, je l'expose aux apôtres qui ont vécu avec le Seigneur, afin de vérifier si ce que je prêche aux païens, soit véritable. Il ne marchait pas en solo. Hein. Il n'a pas dit, moi j'ai eu la révélation, donc je n'ai pas besoin d'écouter les autres, je fais selon ce que je pense moi, ce que j'ai reçu. Non, il est allé voir les disciples et les apôtres à Jérusalem pour leur exposer et valider en quelque sorte que ce qu'ils prêchaient, c'était bien la parole de Jésus, c'était bien la parole de Dieu, c'était bien ce que Jésus avait enseigné à ses apôtres. Il ne voulait pas que tout ce qu'il avait fait soit inutile. Il ne peut pas y avoir plusieurs évangiles ou des interprétations différentes. Et au début de l'ère chrétienne, il y a eu des réunions de responsables, des conciles, comme on dit, pour valider les enseignements, pour valider les écritures qui étaient acceptables, parce qu'il y a toutes sortes d'écrits qui avaient cours à cette époque-là, hein, avec des différents courants, des histoires qui étaient racontées, qui n'ont pas été validées par les apôtres. Et il a fallu qu'on décide qu'est-ce qui était valable, qu'est-ce qui ne l'était pas. Donc il y a eu des réunions pour valider. Et on ne peut pas marcher en solo, en quelque sorte, et avancer selon les idées que nous, on se fait. Il faut toujours vérifier auprès de différentes personnes, et c'est pour cela que dans les églises, il y a des anciens, des pasteurs, des anciens, pour que l'on puisse discuter des théories, des dogmes, etc., pour vérifier si effectivement ça correspond à la parole de Dieu. Sommes-nous donc tous certains de ce que nous croyons ? Et ensuite, sommes-nous certains que ce que nous croyons correspond bien à ce que les apôtres ont enseigné ? On croit une certaine chose, donc est-ce qu'on est certain déjà de ce qu'on croit ? Beaucoup de personnes sont un peu hésitantes quant à leur foi, et ils n'en sont pas vraiment sûrs. Et en plus, la foi qu'ils ont, est-ce qu'elle correspond bien à ce que les apôtres ont enseigné ? Depuis les premiers siècles, il y en a eu, hein, des mouvements, des réformes, des contre-réformes, des sectes, des déviations, etc., etc. Il y en a eu. Alors, nous sommes à la fin, au 20e, au 21e siècle. Qu'est-ce que nous pouvons voir aujourd'hui comme site sur Internet des personnes qui se nomment apôtres ? De où ont-ils reçu ce titre ? On n'en sait rien. Hein ? Ils se nomment apôtres, prophètes, ceci, cela. Ils analysent les textes, ils parlent des prophéties, ils parlent de toutes sortes de choses. Que croire dans tout cela ? Hein ? Notre référence, la seule et unique référence, c'est la parole que Dieu a fait écrire par ses apôtres. Reparti en arrière. Le mot foi prend des sens tellement différents selon les doctrines, les philosophies, les théologies. Pourtant, le message de Jésus a été clair dès le début. Hein ? Le message de Jésus est clair. Alors, Jacques, au chapitre 2, verset 19, nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. » Donc, ce n'est pas le tout de croire seulement. Croire en Dieu, d'accord. Les démons le croient. Mais seulement, ils savent quel est le sort qui leur est réservé parce qu'ils se sont révoltés. Les démons tremblent parce qu'ils ont désobéi. Il ne s'agit donc pas seulement de croire, mais aussi d'obéir. Et l'apôtre poursuit au verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ô homme vain, ô homme qui croit pour rien, cette foi est inutile. Elle ne produit pas de fruits, elle ne sauve pas non plus. C'est une idée, un concept qui ne mène à rien. La foi sans l'obéissance ne mène à rien. J'aimerais lire avec vous la parabole des 10 vierges qui se trouve dans Matthieu 25, au chapitre 25, donc versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Une parabole pleine d'enseignements pour nous. Qui sont ces vierges qui attendent l'époux? Ce sont les chrétiens qui attendent le Seigneur, l'Église. Ce ne sont pas les païens. Ce sont des croyants. Ces vierges ne sont pas des femmes de mauvaise vie. Au contraire, elles se sont gardées pures. Elles attendent l'époux pour l'accueillir. Et pourtant, il nous est dit que 5 d'entre elles sont appelées folles. Elles n'ont pas pensé que l'attente pouvait être longue. Elles n'ont pas été prévoyantes, elles n'ont pas pris d'huile. C'est en cela qu'elles sont folles. L'huile, c'est l'esprit qui anime le croyant, l'esprit de Dieu. Elles ont commencé avec l'esprit, mais leur réserve s'est épuisée. Elles n'ont pas puisé auprès du Seigneur, dans une communion constante et régulière. Cette eau vive, cette onction de l'esprit qui permet d'avancer et de garder la foi. Et Paul dit aux Galates, au chapitre 3, verset 3, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » On peut avoir bien commencé en ayant reçu le salut d'un cœur simple et puis commencer à raisonner humainement et finalement changer les termes et les conditions du salut, ce qui nous fait tomber dans une sorte de religion où l'on pense se sauver soi-même par nos mérites. Toutes ces pensées-là se sont développées au cours des siècles, hein, dans les différentes religions. Au lieu de de recevoir et de garder le salut par la foi, on en est arrivé à un salut par les mérites, par les œuvres. Il n'y a plus d'esprit, plus d'huile pour faire briller la lampe qui devrait éclairer. Toutes ces personnes sont des personnes religieuses, elles attendent le Seigneur, elles professent connaître Dieu, connaître le Seigneur, mais en fait, elles n'ont pas l'esprit en elles. Elles avancent de manière humaine. Qu'on soit catholique ou protestant, orthodoxe, anglican ou évangélique, le danger est le même. Réalisez-vous, frères et sœurs, 5 folles sur 10. La moitié, 50%. Quand j'ai relu ça, ça me fait réfléchir. Et que leur dit finalement l'époux ? C'est terrible, cette phrase que l'époux leur dit. « Je ne vous connais pas. » Elles attendaient le Seigneur, et puis le Seigneur leur dit « Je ne vous connais pas. » Est-ce que c'est possible que nous attendions le Seigneur et qu'en fait le Seigneur nous dise « Je ne te connais pas. » Elles avaient commencé comme les autres à attendre l'époux. Elles s'étaient assoupies, mais pas moins que les autres. Les autres aussi s'étaient assoupies. Toutes, il est écrit, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais elles n'avaient pas fait de réserve et finalement, elles s'entendent dire « Je ne vous connais pas ». C'est une réalité que le Seigneur nous fait comprendre dans Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, la foi chrétienne et le salut ne dépend absolument pas du nombre de fois que vous prononcez le nom « Seigneur, 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 Seigneur » dans une prière ou quoi que ce soit. Ça ne dépend rien pas de ça. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est bien le Seigneur qui le dit, ce n'est pas moi. Hein, et pas le nombre de seigneurs qu'on prononce. C'est ce qui fait la différence, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Celui qui fait la volonté de mon Père, même si par sa bouche il ne prononce pas sans arrêt le mot de Seigneur, mais qui fait la volonté. Il ne s'agit pas d'avoir un langage religieux, de faire comme si on honorait le Seigneur. Encore une fois, il s'agit d'obéir, de faire la volonté du Père. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit par rapport aux démons. Ils croient, mais ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils ont désobéi. Donc, ce qui importe pour nous, c'est de croire et d'obéir. L'apôtre Jacques insiste bien sur cet aspect, donc dans Jacques 1, 22. « Mettez en pratique la parole. » Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Écouter la parole, c'est bien, une bonne chose déjà. Mais ce n'est pas suffisant. Ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole. Écouter, mais ne pas faire, c'est croire en vain. C'est un raisonnement trompeur. La foi doit être vivante, incarnée. elle doit se voir dans notre façon de vivre et d'agir. Il faut que l'Esprit de Dieu nous anime pour que notre foi ne soit pas qu'une apparence. C'est ce que dit aussi l'apôtre à Timothée, en 2 Timothée 3,5, que dans les derniers temps, il dit « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des hommes et ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Et ces hommes-là, le Seigneur leur dira la phrase que vous avez entendue tout à l'heure, « Je ne vous connais pas. » vous avez l'apparence, mais je ne vous connais pas. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La force de la piété, c'est l'esprit de vérité qui habite en nous, qui nous reprend, nous corrige, nous encourage, nous fait vivre selon la pensée du Seigneur. Ce n'est pas seulement l'homme religieux qui vient au culte le dimanche, c'est l'homme qui, toute la semaine, a le Seigneur dans son cœur, qui lui parle, qui s'adresse à lui, qui lui demande des conseils, qui lit sa parole, qui cherche à faire la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu veut. C'est une relation de tous les instants, de tous les jours. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On ne peut pas persévérer par nos propres forces. Ce n'est pas possible. Ce n'est que par l'Esprit que nous pourrons aller jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur. Frères et sœurs, si le Seigneur nous parle ainsi, ce n'est pas pour nous faire douter ou nous décourager, bien au contraire. C'est pour nous mettre en garde. C'est pour nous mettre en garde. Pour que nous soyons prêts lors de son retour et que la porte ne soit pas fermée. Il est nécessaire de nous examiner et de savoir si nous sommes bien dans la foi, si notre foi correspond bien à ce que le Seigneur a prêché, si notre foi correspond bien à ce que les apôtres ont enseigné, et si ce n'est pas seulement une foi théorique que nous avons dans notre tête, mais que, effectivement, nous cherchons chaque jour à la mettre en application dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie. C'est ça qui est important. Paul dit à Timothée, encore une fois, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Voilà quelque chose qui peut nous rassurer quand même, parce que, bien sûr, on a tous des infidélités, en quelque sorte, dans le sens que nous sommes malheureusement faibles. Nos idées peuvent évoluer, peuvent changer, mais c'est pour ça qu'il faut ramener nos pensées vers le Seigneur. Si nous n'avons pas vécu comme le Seigneur le voulait, et que nous en prenions conscience vraiment, alors nous pouvons obtenir le pardon et la guérison pour retrouver la communion avec Dieu et le Seigneur Jésus. Pendant qu'on peut dire encore aujourd'hui, si on peut dire encore aujourd'hui « je suis vivant, je respire », comme disait Théo tout à l'heure, eh bien, nous pouvons, si nous avons conscience que jusqu'à présent nous avons vécu une foi un petit peu désincarnée, un petit peu dans l'idéal, mais qu'en fait, dans notre vie, on faisait un petit peu ce qu'on voulait. Il est encore temps, tant qu'on peut dire aujourd'hui, tant qu'on a le souffle de vie, de revenir au Seigneur, de se replacer devant lui, devant sa parole et de lui demander pardon. L'apôtre Jean dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Nous ne sommes pas seuls. Jésus est mort pour nous. C'est la base de notre foi. Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Alors si nous avons quelques reproches à nous faire, nous nous approchons du Seigneur. Il est notre avocat. Il prend notre défense. Et il dit à son Père, « J'ai payé pour cet homme. J'ai payé pour lui pour que tu lui pardonnes à cause de mon sang versé à la croix. » Alors Père, accepte-le. Et si nous venons au Seigneur avec nos faiblesses, eh bien, le Seigneur nous pardonne, nous en avons l'assurance. Pour cela, il faut simplement de l'humilité. Savoir se remettre en question, savoir reconnaître ses fautes. Car il est écrit aussi dans l'Écriture, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » C'est l'apôtre Pierre qui le dit aussi dans une de ses épîtres, et nous trouvons aussi cette parole dans les Proverbes. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors, à nous simplement d'être humbles devant le Seigneur, et si nous avons quelque chose à nous reprocher, ben, approchons-nous de Dieu. Pierre nous dit dans la première épître au chapitre 5, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Voilà ce que nous devons faire simplement, régulièrement. Et nous avons tous les dimanches une occasion de le faire quand nous nous approchons du repas du Seigneur. Nous ne prenons pas ce pain, ce vin de façon indifférente, comme une habitude, un rite. Non, ce n'est pas un rituel. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, chaque fois, nous nous remémorons ce que le Seigneur a fait pour nous. Si nous ne croyons pas ça, nous ne le prenons pas. Mais si nous croyons que Jésus-Christ est mort pour moi, pour mes péchés, alors nous prenons ce pain et ce vin et nous lui rendons grâce. Les temps sont durs, mais loin d'abandonner la foi ou de nous décourager, nous devons nous replacer dans la volonté de Dieu, dans l'obéissance à ce qu'il a fait écrire par ses apôtres. Je terminerai donc en lisant dans Hébreux au chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ne soyons pas timides, approchons-nous avec assurance, parce que nous savons que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous est favorable. Dieu nous est favorable, nous l'avons appris. Nous l'apprenons par l'Évangile, alors nous pouvons nous approcher de lui et lui dire « Si jamais nous avions laissé un peu de côté la foi, pardon Seigneur, je reviens à toi, je reviens à ta croix, je reviens à ton enseignement ou à l'enseignement de tes apôtres. Je veux croire simplement que tu m'aimes. » Oui, approchons-nous avec assurance. Que le Seigneur nous garde dans une foi qui ne soit pas vaine, dans une foi vivante. Amen.